Et bonsoir à toutes et à tous. Et merci de vous être déplacés pour une conférence théologique. Alors, on pense souvent que la théologie, c'est important, mais la théologie influence votre vie, et peut-être même votre vie plus que vous ne le croyez. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier la municipalité pour la mise à disposition de cette magnifique salle. C'est dommage que vous échangez l'horaire, mais bon, ça, on n'y peut rien. C'est les économies d'énergie qui veulent ça. Alors ce soir, j'ai la joie de vous présenter Caroline Bauer qui nous vient de la Suisse.
Carrément
de la Suisse. Ouais. Et nous, on a été pistonnés, elle nous a donné du chocolat.
J'en ai pas pour tout le monde, c'est dommage.
Alors Caroline Bauer est enseignante en éthique théologique spécialisée en éthique sociale. Elle est docteur en théologie protestante et en sciences économiques et chargée de cours, vous ne devinerez pas, à l'Université catholique de Lyon et à l'Institut théologique d'Auvergne. Alors quand on dit que l'œcuménisme, ça ne marche pas. Hein. Alors elle est aussi autrice d'une thèse sur les justifications du travail dans la pensée de Jean Calvin. Alors Jean Calvin, vous avez participé. Alors, elle enseigne depuis plusieurs années les interprétations du sens du travail dans les traditions catholiques et protestantes. Ah. C'est pour ça, maintenant, que je me tais et je laisse tout à la place à Caroline Bauer pour sa conférence qui s'intitule « Ambivalence et sens du travail dans la Bible ».
Attendre que leur travail contribue au bien commun, à la transition.
transition écologique, par exemple, ou qu'au moins l'entreprise s'inscrit dans une perspective qui la respecte, attendent aussi d'être reconnues pour leur contribution réelle, attendent que le travail soit pour eux un lieu de socialisation, attendent, surtout d'après les enquêtes récentes, de pouvoir réaliser un travail bien fait. Et on entend souvent dans les critiques actuelles du travail la difficulté des personnes au travail à se sentir capables de réaliser un travail bien fait. Alors s'ajoute le volet négatif. Les conditions de travail sont jugées globalement mauvaises en France, de telle sorte que ces attentes ne peuvent être comblées. Le travailleur se trouve donc aujourd'hui dans une position très inconfortable, où il doit juger de l'équilibre entre le positif et le négatif, optimiser le rapport entre ce que lui coûte le travail et ce qu'il lui rapporte par rapport à sa vision de ce qu'est un bon travail. Et ce jeu d'équilibre pourrait très bien, dans mon esprit, conduire à des phénomènes comme le quiet quitting. Vous en avez entendu parler, hein, c'est-à-dire ce phénomène récent depuis la crise du Covid, hein, où le travailleur calcule l'engagement minimal qu'il peut produire tout en restant dans son travail. Ou alors un autre phénomène qu'on a vu apparaître aux États-Unis, le rage applying. On démissionne très souvent, très rapidement de son travail pour en trouver un meilleur qui correspond aux meilleures conditions. Ou alors l'évaluation très fréquente aujourd'hui de la part de bullshit activities ou de bullshit job, hein, le travail à la con, ça a été traduit comme ça dans les publications. Les activités pour lesquelles on ne voit aucune utilité à ce que l'on fait. Et ça, tous ces phénomènes peuvent tout à fait représenter une sorte de travail éthique que chacun peut conduire pour évaluer le bon et le mauvais de son travail, ce qu'il est, en quoi il contribue à un bien et jusqu'à quel mal on peut supporter un travail. La question du sens du travail s'en trouve revivifiée. Alors, cela pose deux types de problèmes. Jacques Le Goff a abordé les problèmes sociaux sous la forme de problèmes de société. Il a abordé en quoi la réponse par le droit pouvait être possible, ou une réponse par la mobilisation sociale. Et moi, je vais essayer d'aborder comment un discernement éthique peut répondre, ou en tout cas contribuer d'enrichir cette réflexion sur le travail. Car c'est un autre volet. Comment peut-on discerner soi-même ce que je peux juger souhaitable dans mon travail? Et dans ce discernement éthique, nous savons et nous croyons que la Bible peut peut-être nous aider à discerner les choix sur le travail. Alors un problème éthique, tout simplement, c'est une question vitale qui pose problème parce qu'elle met en jeu des arguments qui sont conflictuels entre eux et qui nécessitent un discernement. Et on voit bien que ce conflit, on l'a déjà posé dans l'examen de ce que serait devenu le travail aujourd'hui. La Bible, donc, est peut-être une ressource. Et je vais tenter une proposition de questionnement ou d'approfondissement de ce questionnement en quatre points. D'abord, je vais poser à partir d'un texte biblique que nous avons une liberté de discernement que la Bible apporte tout particulièrement, ou en tout cas dont la Bible témoigne tout particulièrement. Et ceci, cette liberté, la liberté du chrétien, qui est un thème qui a été repris par beaucoup de théologiens, c'est quelque chose qui est un appui et une force sur laquelle nous pouvons compter. Et déjà voir ce point, c'est important, c'est croire en la capacité de l'être humain à pouvoir se positionner et ne pas être prisonnier d'un système. Deuxième point, nous aurons à comprendre à nouveau et à rentrer dans un débat contemporain en théologie sur la visée que la Bible accorde réellement au travail. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de débats qu'il est intéressant de comprendre. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est que la Bible rend compte de l'ambivalence du travail. Cette ambivalence que nous avons posée, eh bien, il est rare que la Bible que l'on relève cela de l'écriture. Hein. On a l'impression que la Bible invite à travailler, on a certaines traditions comme ça, comme une vision unifiée du travail dans la Bible. Eh bien non, la Bible rend compte de l'ambivalence du travail et c'est intéressant de pouvoir le poser. Et le quatrième point, je voudrais aborder la façon dont l'horizon du don va permettre peut-être le dépassement de ces ambivalences, en tout cas de pouvoir surmonter, dépasser, au moins supporter et peut-être dépasser ces ambivalences. Donc un long parcours. Et commençons donc par la liberté fondamentale, une liberté qui nous est donnée et que nul ne pourra nous ravir, disent les Écritures à leur manière. Je vais prendre un exemple pour illustrer une situation d'évaluation d'une situation professionnelle dans un extrait de lettre de Paul écrit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 7. Je cite 1 Corinthiens 7. « Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en soucie pas. Au contraire, alors même que tu pourrais te libérer, mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. » Alors ce texte, dans une première lecture, peut surprendre. Est-ce un appel à supporter n'importe quelle condition de travail, dans un esprit de sacrifice, qui, au nom d'une rédemption à venir, inciterait à supporter sans limite la pénibilité du travail? Peut-être que le Seigneur nous ayant libérés, nous n'avons plus rien à attendre sur terre, en tout cas d'une quelconque liberté dans les institutions sociales. Nous avons à supporter notre condition. Lorsqu'en 1955, donc il y a déjà quelque temps, le père dominicain Marie-Dominique Chenu publiait un petit livre intitulé « Pour une théologie du travail », il s'est élevé contre une lecture inspirée de saint Augustin et qu'on trouvait dans ce qu'il appelle une homilétique du XIXe siècle, c'est-à-dire tous ces récits de prédication, toute cette prédication du XIXe siècle, qui, selon laquelle l'humain n'aurait qu'à supporter dans le travail une triste condition terrestre. Nous devons supporter une condition de voyageur sur la terre, qui est une expression de saint Augustin dans la Cité de Dieu, nous invitant à nous détacher des réalités terrestres. Et cette interprétation, qui aurait eu cours d'après Marie-Dominique Chenu jusqu'au début du XXe siècle, est rejetée par le théologien. Il invite à une nouvelle relecture de la théologie en vue de lier travail et créativité. J'en reparlerai un peu plus tard. Donc on peut dire que peut-être cette lecture sacrificielle a effectivement eu lieu. De là l'utilité de relire nos textes bibliques face au contexte d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, qui inciterait les jeunes à dire bah, « Écoute, mon pauvre, t'es dans un emploi qui n'a pas de sens, t'es emprisonné devant ta machine toute la journée, mais c'est pas, t'inquiète pas, supporte. » Le texte biblique, à y regarder de près, résiste d'un côté à toute invitation au sacrifice, et ça, il faut le voir. Ce texte écrit par Paul est une illustration d'un principe fondateur qu'il annonce un tout petit peu plus haut dans sa lettre, et qui est écrit comme ça, en 1 Corinthiens 6, donc un chapitre avant. Tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai asservir par rien. Et en fait, je ne me laisserai asservir par rien. C'est une parole très forte. Hein. Je regrette de ne pas avoir un peu de musique pour laisser mûrir un peu la parole, je ne me laisserai asservir par rien. Il va l'illustrer de différentes manières, dont cet exemple sur l'esclavage. C'est donc bien dans un enracinement contre un asservissement des hommes que ce texte est posé. Le deuxième argument qui nous fait rejeter toute invitation à un sacrifice qui se complairait dans l'acceptation, c'est l'argument que de Paul, que par la foi, le Christ libère le croyant de toute perte de lui-même, même s'il reste dans une domination injuste. Si on accepte de rester dans l'esclavage, on est tout de même libéré. Il ne s'agit pas de sacrifice. Et pourtant, d'un autre côté, Paul insiste, invite le croyant à finalement accepter une situation de travail particulièrement difficile. Donc on voit bien l'ambivalence dans laquelle Paul va annoncer la liberté de la personne de pouvoir réinvestir son travail autrement, même dans des conditions mauvaises. Et ça, c'est une liberté fondamentale promise par l'Évangile. On pourrait dire ainsi, cette libération que donne le Christ, alors je reviens juste un peu en arrière, en fait, qu'est-ce que fait Paul? Il ouvre un choix nouveau, la possibilité pour l'esclave de servir le Christ quand bien même il est esclave. S'il n'avait pas cette libération du Christ, il n'aurait plus aucun choix. Mais vous voyez bien qu'il y a une liberté offerte supplémentaire. Cette libération que donne le Christ est une liberté de discerner à minima ce que l'on accepte et ce à quoi on résiste. Et c'est peut-être aussi une liberté de poser une parole, un oui ou un non sur la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire peut-être de ne pas condamner les jeunes qui quittent leur emploi très vite en disant « je ne m'attache pas à tel emploi », ne pas condamner celui qui en fait le minimum, parce que c'est peut-être une réponse, un oui ou un non qu'il pose sur une réalité professionnelle qui elle-même pose problème. Et peut-être que c'est une façon de faire porter le débat dans les entreprises sur qu'est-ce qu'un travail dans lequel on reste ou qu'est-ce qu'un travail dans lequel on s'implique. S'il n'y avait pas cette résistance, eh bien cette question ne serait pas posée. Mais peut-on objecter « je suis inséré dans une culture » qui forge un concept de travail qui conduit jusqu'à un marché du travail face auquel je n'ai pas beaucoup de liberté en réalité. Je suis sommé d'accepter cela, ou au moins de faire avec. Pour illustrer la liberté du chrétien, je vais prendre l'exemple de Jacques Ellul. Vous connaissez peut-être tous Jacques Ellul. Il est très critique vis-à-vis du travail moderne. Et dans un texte intitulé « Travail et vocation », il donne son propre exemple. Alors ce texte est publié dans un petit livre qui s'appelle « Pour qui, pourquoi travaillons-nous ?» Alors il se met lui-même en exemple. Il explique qu'il partage son temps entre son emploi de professeur à l'université, qui à ses yeux ne contribue pas à sa vocation, il le nomme un travail sans valeur, et un engagement bénévole dans un club de prévention qu'il nomme « travail véritable », valorisé par sa vocation de chrétien. Et il vit donc son appel à suivre le Christ dans cette dichotomie de sa vie entre deux types d'engagement, l'un professionnel, sans valeur, et l'autre bénévole, plein de sens. Alors, il vit son appel à suivre comme ça, mais cette dichotomie, quand on y pense, elle serait insupportable si elle rendait la moitié de notre temps d'activité comme un tombeau, un lieu sans vie, sans espérance, comme si on ne vivait qu'à demi. Alors, on peut supporter un travail d'esclave la moitié du temps et puis l'autre moitié du temps, enfin, on trouve encore un engagement qui nous convient. C'est pas ça que dit Paul, d'ailleurs. C'est là que, dans un mouvement dialectique, Ellul cherche à montrer combien, au contraire, la négativité nous pousse à chercher, et là je le cite, j'ouvre les guillemets, chercher à partir de cette négation ce qui serait possible comme incarnation et comme accomplissement. De cette quête, le travail nécessaire, contraint et a priori sans valeur s'en trouve enrichi. Il prend même un sens, le négatif se découvrant comme ayant une fonction créatrice. Et il va illustrer cela par le renouvellement de ses relations avec ses propres étudiants dans le cadre de son professorat, où il va pouvoir avoir des relations plus approfondies et plus justes avec ses étudiants, du fait de son engagement bénévole dans l'association. Prof de fac, ce n'est quand même pas l'esclavage. Et c'est intéressant de voir qu'un poste socialement finalement très valorisé peut être aussi sans signification pour celui qui le vit. Sans signification devant Dieu, bien sûr, hein, parce que j'avais lu qu'il résonne en chrétien. Et c'est une réalité de beaucoup de gens aujourd'hui. On a des réactions de retrait du travail, de gens qui sont à des postes qui pourraient être souhaitables pour beaucoup. C'est une réalité que le travail a à être retravaillé, même dans des fonctions dites valorisantes. Alors, malgré ce que Paul semble dire aux Corinthiens, il faut bien voir que Paul lui-même ne valide en rien l'esclavage ou le principe de l'esclavage comme étant en soi une chose bonne. On en voit la preuve dans la courte lettre qu'il écrit à Philémon, un petit joyau de littérature. Paul écrit au maître, Philémon, au maître d'un esclave qui s'appelle Onésime. Et Onésime s'est enfui de chez Philémon, et puis, par le biais de différentes circonstances qu'on connaît d'ailleurs assez mal, il est venu servir Paul. Alors les voilà dans une position inconfortable, où Onésime risque la prison pour avoir fui, et Paul risque d'être condamné comme étant complice d'avoir accueilli Onésime comme collaborateur, puisque Onésime est devenu collaborateur de Paul. Alors qu'est-ce que fait Paul? Il renvoie Onésime chez Philémon avec une lettre pour expliquer à Philémon combien il aime Onésime. Et j'en cite juste un tout petit passage. Peut-être Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et en tant qu'homme, et en tant que chrétien. Si donc tu me tiens pour ton frère en la foi, reçois-le comme si c'était moi. Je sais que tu feras plus encore que je ne dis. Extraordinaire argumentation. En fait, il espère la libération d'Onésime, mais il ne la demande pas frontalement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se poser comme frère. Frère de Philémon, frère d'Onésime, et donc, ils sont tous les trois englobés dans la même fraternité. Et de ce fait, la domination, maître-esclave, est totalement dénaturée, détruite. Elle n'a plus aucun sens. Voilà comment Paul subvertit la domination maître-esclave, c'est-à-dire une condition, on retraduirait aujourd'hui le travail inutile chez nous, le travail pénible chez nous, par le fait de poser, par cette parole, la fraternité commune qui les unit. Il désacralise le rapport de pouvoir. Et de ce fait, il condamne l'esclavage. Quand bien même, il sait que la société dans laquelle il est repose sur l'esclavage. Donc il ne veut pas décemment dire « supprime l'esclavage de ta maison ». Il n'y a pas de maison en ce temps qui fonctionne sans esclave. Mais on peut imaginer qu'une fois cette lettre reçue, Philémon ne sera plus jamais le même maître vis-à-vis de ses esclaves en général qu'il ne l'a été auparavant. Un pasteur et prédicateur scénario protestant, hein, qui a beaucoup commenté les textes bibliques, commente cette lettre à Philémon en ce sens, et je le cite: la prédication de l'Évangile n'est pas une simple dénonciation verbale, souvent inefficace, de la structure de l'esclavage, mais elle fait mieux, elle le dépasse, elle le mine, elle le ruine. Voilà, il me semble, une bonne illustration de la force de l'Évangile, qui nous donne cette liberté sans remettre en cause les structures sociales directement, parce que ce serait frontalement impossible, de casser toute sacralisation des rapports de pouvoir et de domination, et de resituer la personne comme digne, frères et sœurs les uns les autres, au centre de la préoccupation. Alors le propos de Paul en 1 Corinthiens 7 que nous lisions tout à l'heure s'éclaire. Alors même que tu pourrais te libérer, mais plutôt à profit ta condition d'esclave. Il y a même dans nos conditions de travail cette possibilité d'être subversif. Alors voyons maintenant à quel contexte d'aujourd'hui, parce que ces textes sont écrits dans un contexte qui n'est plus le nôtre, nous nous affrontons. Nous avons à comprendre en quoi il y a une forme de sacralisation du pouvoir ou de l'argent dans la conception du travail qui rend le travail aujourd'hui particulièrement inconfortable. Alors je ne prétends pas faire un diagnostic complet, ce serait très, très ambitieux. Je vais donner quelques points de référence, d'analyse récente du travail et des problématiques aujourd'hui que nous affrontons, justement pour montrer cette ambivalence et la nature de cette ambivalence du travail. En tout cas, une des difficultés que mettent en avant sociologues et philosophes, c'est que le travail, en réalité, l'emploi professionnel, dans le sens d'une situation professionnelle proposée sur le marché du travail, ne répond pas pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, aux aspirations de ce que pourrait être un travail bien fait ou l'avenir, dans lequel on se sent respecté et valorisé. Il y aurait, en soi, aujourd'hui, une prise de conscience toute particulière de cette déconnexion entre les espérances d'accomplissement qu'on attend du travail et les conditions qui sont offertes. Ça, je l'ai déjà dit au début. Ajoutons la critique d'une sociologue qui s'appelle Marianne Dujarrier et qui a publié un livre qui s'appelle « Le trouble dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée ». Alors, je ne vais pas citer ce livre, je vais citer une émission qu'elle a animée sur France Culture il y a une dizaine de jours. Elle intervenait dans l'émission qui s'appelle « Avec philosophie ». Et il y a eu 4 émissions avec philosophie sur le travail qui complètent votre réflexion. Elle dit aujourd'hui « Je ne sais plus ce que c'est que le travail ». Et une des raisons pour lesquelles elle ne sait plus ce que c'est que le travail, c'est, je la cite, « On sait que l'activité des sciences psychologiques l'ont montré, est constructrice de sens et d'affirmation de soi. Mais le travail, tant de gens font des activités dont l'utilité sociale échappe, voire sont désutiles. Et par ailleurs, une quantité importante de travail qui contribue à la reproduction sociale se fait hors emploi, comme les tâches ménagères, les aidants, le digital labor, le travail numérique qu'on fait soi-même en tant que consommateur. L'utilité sociale, dit-elle, de la production et le gagne-pain ne coïncide plus. » Alors, elle dit bien ici l'ambivalence du travail, et elle le dit avec une définition du travail que je vais retenir. Le travail n'est pas ce qui produit une utilité sociale, mais le travail est ce qui contribue à la reproduction de la société. Et ça, je trouve que cette définition est très éclairante d'une volonté d'intégration du travail dans nos vies. C'est assez nouveau, et Marianne Dujarrier n'est pas la seule à porter cette critique que le travail a pour défaut aujourd'hui de ne plus suffisamment contribuer à la construction sociale. Il est une sphère séparée du reste de la vie sociale. Et je vais l'illustrer d'une ou l'autre façon. Je peux l'illustrer avec une philosophe américaine, Elizabeth Anderson, qui a publié un livre en 2017, qui s'appelle « Gouvernement privé, comment les employeurs dirigent nos vies ?» Et pourquoi nous n'en parlons pas ? Alors ça, c'est la traduction française du titre. Dans un article d'entretien sur ce livre, elle dit ceci : « Au cœur de la société libérale se niche une contradiction. Nous sommes attachés à nos idéaux fondateurs de liberté et d'égalité, que nous nous efforçons de protéger de l'autorité de l'État, et pourtant, nous passons l'essentiel de nos journées à suivre des ordres arbitraires sur lesquels nous n'avons qu'une prise minimale, voire nulle. L'emploi est devenu une sphère autonome, déconnectée des enjeux de la vie personnelle, de la vie interpersonnelle ou de la construction sociale. » Et un autre philosophe allemand, celui-là, donc, c'est aussi le signe que ce n'est pas seulement un problème français, puisque ce sont des philosophes qui interviennent de différents pays. Une autre voix qui s'élève actuellement, c'est un philosophe de l'école qui est directeur, je crois, de l'école de Francfort, qui s'appelle Axel Honneth. Il a pris la suite de Jürgen Habermas, qu'on connaît mieux, mais Axel Honneth est aussi un très grand philosophe, donc de l'école de Francfort. Il vient de publier un livre en allemand. Der arbeitende Souverän, je le dis en allemand, a une normative théorie der Arbeit, une théorie normative du travail. Alors, il essaye de revenir à ce qu'il estime avoir été délaissé dans les 30 dernières années, aux 40 dernières années, à une théorie politique critique du travail. Et, justement, il part de ce constat que le travail n'est pas organisé et compris de telle sorte que le travailleur soit un participant à la construction démocratique. Il y a une logique des conditions de travail qui n'a plus rien à voir avec la logique du citoyen, comme si c'était deux sphères totalement séparées de la vie. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette déconnexion ? Et c'est peut-être pour ça, c'est en tout cas une explication qu'on peut porter à cette ambivalence du travail. Qu'est-ce qui se passe dans cette déconnexion ? Je voudrais, pour l'expliquer, reprendre une notion qu'avance cette même philosophe Elizabeth Anderson, américaine, dans une leçon qu'elle donne à la London, je crois à la London School of Economics, au King's College de Londres. Elle donne une leçon qui s'appelle « The Work Ethic, Its Origins, Legacy and Future » et son prochain livre, là, qui est en train de sortir, qui vient de sortir aux États-Unis mais qui n'est pas encore arrivé en France, porte sur ce thème. Donc je pense qu'elle va pouvoir le déployer un peu plus. Elle parle à la suite de David Kreber, ce penseur, ce philosophe qui a mis en avant l'idée de « bullshit jobs » montrer combien la part de bullshit jobs était importante dans la vie sociale. Elle parle de violence spirituelle qui s'appliquerait, alors elle l'explique, du fait d'une manière de séculariser une éthique qui était chrétienne au départ. Donc ça nous motive, nous, doublement en tant que théologiens. D'une part parce que elle estime, et ça il faudra reprendre sa thèse quand on sortira, que c'est bien une éthique chrétienne qu'elle rattache au puritanisme, en reprenant largement la thèse de Weber, de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui a été dénaturée dans une éthique qui consiste à prendre le pouvoir sur le travailleur et exercer sur lui une violence spirituelle. Donc la deuxième raison pour laquelle nous, théologiens, nous sommes motivés par cette question, c'est qu'une violence spirituelle, ben forcément, nous cherchons à pouvoir répondre à cette question de comment répondre à une telle violence spirituelle. Voilà comment j'approfondis ici cette notion d'ambivalence du travail dans le contexte d'aujourd'hui. Et voilà comment je pose, à partir de Paul, que nous avons peut-être une liberté, une parole à trouver, une réponse possible à partir des Écritures. Quelle réponse ? Alors voilà, c'est là que le chant devient, le chemin devient engageant pour nous, hein, c'est de poser une parole propre. Et la première étape, c'est ma deuxième partie, que j'ai annoncée tout à l'heure, ce sera de voir un peu d'où nous partons sur le sens du travail, le sens chrétien du travail, et qu'est-ce qui se développe aujourd'hui de nouveau dans cette relecture biblique du sens du travail. Nous savons que dans la Bible, il n'y a pas de concept unifié de travail, ni même un mot générique correspondant à notre mot travail. Il y a plusieurs mots en hébreu, plusieurs mots en grec, je passe assez vite là-dessus. Pourtant, il y a une chose, que des théologiens très importants de notre tradition ont tous repéré depuis bien longtemps, je pense à saint Ambroise, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Jean Calvin, tous ont repéré une chose, c'est que dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire avant même le péché, la condamnation par Dieu, etc., eh bien l'homme travaillait. Dieu met Adam au travail. Et cela a fait dire à l'ensemble de la tradition théologique, catholique et protestante, que le travail avait une grande valeur. Seulement, voilà, quelle valeur? Toute la question est là. Car il y a deux récits de création. Si on reprend le jardin d'Éden et le rapport que dans ces récits est posé entre l'homme et Dieu. Il y a deux récits de création, il y en a plus que deux d'ailleurs. Hein. Il y en a dans la Genèse deux récits de création côte à côte, Genèse 1 et Genèse 2, qui vont raconter la création de façon très différente. Dans le premier récit de la création, en 7 jours, voilà qu'au 6e jour, Dieu crée l'humain à son image, à sa ressemblance, pour dominer et pour soumettre. Je cite le texte d'un verset, deux versets, de Genèse 1, 27-28. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, on connaît par cœur ce texte. Mâle et femelle, il les créa, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, toute bête qui remue sur la terre. Voilà le thème de la domination qui arrive en force. Nous qui critiquons une domination excessive. Donc le partenariat entre l'homme et Dieu qui s'institue dans la création prend un sens dominateur. Et pour la foi chrétienne, ce n'est pas forcément sans bonté, parce que la création est bonne. Mais il est dominateur. Et lorsqu'en 1955, dans le contexte des années 50, où une espérance de civilisation du travail germait parmi les penseurs, pas seulement les théologiens, Marie-Dominique Chenu, qui écrit ce texte pour une théologie du travail, dont j'ai déjà parlé, propose une nouvelle lecture théologique. Et cette nouvelle lecture, il la développe à partir d'une position d'Emmanuel Mounier, philosophe que nous aimons bien, qui pose la nature de l'homme comme étant celle d'un homo artifex, un homme fabricateur. Et donc, cette domination prend le sens d'une domination de la nature. Je cite Chenu. Je cite Chenu comme dans une phrase qui peut être le résumé de sa base théologique. L'homme s'accomplit lui-même en dominant par sa découverte, par sa raison, par sa puissance, par sa vertu, la nature qui est son domaine, et dont il fait un monde nouveau, un monde humain. Dieu l'a établi maître de la création. Donc on voit bien toute cette théologie des années 60 qui va défendre l'idée que cette domination est véritablement le sens du travail qui est confié à l'homme, dans le sens où l'homme va dominer la nature et par cette domination de la nature va s'accomplir lui-même et va accomplir la société. Si je reprends la constitution pastorale Gaudium et Spes, nous avons une formulation donc, qui est sortie dans les années 65, nous avons une formulation qui est tout à fait dans le même sens. L'homme créé à l'image de Dieu, je le cite dans le texte, a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner le cosmos en sainteté et en justice, en référence à Genèse 1, et en reconnaissant Dieu comme créateur de toutes choses, et de lui référer son être ainsi que l'univers, de sorte que, tout étant soumis à l'homme, le nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre, etc. Et donc, de la soumission de la nature à la soumission de l'homme par le travail, il n'y a peut-être qu'un pas. Et il faut remarquer que tous ces textes citent seulement Genèse 1. Dans la tradition protestante, je passe très vite, on a un peu une autre histoire, mais on pourrait très bien défendre que la lecture du travail, non pas de Max Weber, mais de Jean Calvin, a très bien pu conduire aussi à une compréhension de l'homme comme finalement exploitant la nature. Seulement voilà, la crise de sens du travail, c'est aussi la crise de sens de cette idée de domination. Et on en a trouvé une expression très claire dans les mêmes années 1965, 66, 65, lorsqu'un un chrétien presbytérien américain, qui s'appelait Lynn White Jr., je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce qu'en théologie de l'écologie, on lit beaucoup ce texte, il a donné une conférence qui a beaucoup marqué les esprits, qui a été publié par la revue Science, et qui s'appelle « Les racines historiques de notre crise écologique ». Il va démontrer que le christianisme, dans sa version occidentale, est responsable de la crise écologique, en grande partie, parce qu'il a justifié la domination de la nature par les sciences et par la technique. Je le cite, « La chrétienté est la religion la plus anthropocentrique que le monde ait connue. » Et ceci trouve sa source dans le texte de Lynn White. Et pour lui, dans cette interprétation de Genèse 1, l'homme est fait à l'image de Dieu pour dominer et pour soumettre. Voilà la critique posée. Alors, la thèse de Lynn White fait toujours débat aujourd'hui. A-t-il raison? A-t-il tort? Lynn White pose un papier qui est très bien argumenté, ça vaut la peine de le lire, on peut le trouver sur Internet. Vous aurez d'ailleurs la référence dans le texte. Donc, c'est un écrit très moderne aujourd'hui, hein, parce que les théologiens de l'écologie le travaillent aujourd'hui ce texte pour voir comment y répondre. En tout cas, Laudato Si y a répondu. Laudato Si, le pape François répond clairement que l'interprétation de la création de l'homme et de la place de l'homme comme exploitation sauvage, ce n'est pas, je le cite là aussi, ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible. Je cite encore là aussi, il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte avec une herméneutique adéquate et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde. Genèse 2, 15. Voilà le pape qui fait le lien entre Genèse 1 et Genèse 2. Et voilà qui va ouvrir le débat et inviter les théologiens, non pas à seulement relire Genèse 1, mais associer aussi Genèse 2, le deuxième récit de la création. Or, ce deuxième récit présente le sens du travail dans un autre esprit. Alors d'abord, ce récit de Genèse 2, je vais lire le premier verset du récit. Le jour où le Seigneur fit le ciel et la terre, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs. Aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez tout de suite l'importance du travail posé dans ce deuxième récit. Il n'y avait pas de vie qui germait parce que l'homme, il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Et donc, cette culture, cet ordre de cultiver le jardin que Dieu va donner à l'homme ensuite, a vraiment une importance essentielle pour défendre cette position de développer la vie, dès le départ. Et puis, qu'est-ce que montre ensuite le texte? Eh bien, étonnamment, dans la suite du texte, ce n'est pas l'homme qui se met au travail, c'est Dieu qui se met au travail. Et c'est Dieu qui se met au travail avec des mots qui correspondent exactement à celui du travail humain. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière. Il insuffla dans ses narines la haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin d'Éden. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre. Tout un vocabulaire du champ du travail appliqué en réalité à Dieu et qui en réalité représente le travail de culture qui va être confié à l'homme. On a là une sorte de partenariat avec Dieu dans le sens où l'homme aurait à travailler à l'image de Dieu. Pas tant être dominateur comme Dieu serait dominateur, mais que son travail soit à l'image du travail de Dieu. Ce qui fait quand même évoluer le sens du travail. Tous ces mots, modèle, insuffle, plante, place, fait germer, montrent un langage du travail tourné vers le développement de la vie. Un théologien qui vient de publier un livre, enfin il est mort, il est décédé en 2021, mais son livre a été publié en 2023. Et c'est un professeur de littérature hébraïque qui s'appelait André Lacocque au Chicago Theological Seminary. Il utilise cette expression dans ce livre qui s'appelle Travail et créativité. Le travail humain est présenté comme l'image en miroir du travail de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Et l'image en miroir du travail de Dieu, eh ben, c'est un travail qui prend soin. C'est un travail qui développe la vie. Et c'est un travail dont l'idée de domination est absolument absente. Mais voilà maintenant qu'apparaît encore une difficulté. Même défini comme un prendre soin, le travail demeure marqué par l'ambivalence. Parce qu'on a toujours le texte de Genèse 1 et Genèse 2. On a cette première ambivalence de la domination qui reste, on ne peut pas supprimer une partie des textes bibliques. Hein. Et puis cette notion de prendre soin. Mais voilà une seconde ambivalence, c'est que même dans le prendre soin, il n'est pas. Le texte biblique va nous montrer plusieurs horizons possibles. La mission particulière de l'homme est précisée au verset 15 de chapitre 2. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On connaît bien ce verset. Hein? Cultiver. Le verbe cultiver en hébreu se dit rabad. Il signifie travailler dans le sens de cultiver. Il est aussi appliqué à l'artisanat ou même à la gestion de certaines affaires dans l'Ancien Testament. Donc il veut bien dire travailler. Mais il veut dire aussi servir. Servir dans le sens de rendre service. Mais le mot aussi veut dire encore dans un autre sens servir, servir liturgiquement, servir cultuellement. On a là tout un développement du sens du service, d'une particulière richesse. Cultiver, c'est prendre soin du prochain et c'est aussi louer Dieu, le servir liturgiquement. Donc on a là une vision très, très riche, très positive du service. Et le deuxième terme, chamar, garder, garder le jardin, c'est aussi le mot qui est employé dans tout l'Ancien Testament pour dire garder l'alliance. Donc il y a une notion de fidélité, de garde dans la durée, tout cela est très positif. Mais en même temps, et voilà l'ambivalence, le terme travail est aussi utilisé pour dire asservir. Asservir les peuples, les réduire en esclavage. Avec le même mot, on peut dire autant la réalité positive que la réalité négative. Il y a donc une ambivalence fondamentale dans cette formulation de la mission donnée par Dieu d'être partenaire de la création. Et pourtant, jamais Dieu ne se montre dominateur dans ce texte, ni même d'ailleurs dans Genèse 1. Ce serait donc un dévoiement du travail que de devenir, que d'asservir. Et c'est pourquoi on peut tout de suite lire l'ordre qui suit immédiatement le verset 15, le verset 16. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais de celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Voilà tout de suite l'ordre limitatif qui va interdire la toute-puissance. Ce verset a souvent été compris comme la connaissance du bien et du mal, comme une représentation du tout. Tu as droit à tout sauf un. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit à la toute-puissance. Mais toutefois, dans cette formulation-là, Dieu prend toujours le risque de donner la liberté à l'homme de s'engager au risque qu'il devienne tout-puissant ou qu'il asservisse. Il y a donc, dans ce texte, une prise de risque de Dieu qui confie à l'homme une mission, mais assume aussi le risque qu'elle ne réussisse pas. Et bon, j'ai pas le temps de développer, mais on aurait plein d'autres exemples dans le livre de la Genèse de cas où Dieu va assumer finalement le fait que l'homme est un homme mauvais. On le voit à la suite, par exemple, du déluge, où Dieu dit à un moment « Je ne détruirai plus jamais la création, quand bien même l'homme fait toujours le mal. » On peut encore regarder sur le sens du travail un indice intéressant qui est la seule action finalement qu'Adam réalise vraiment dans le texte de Genèse 2. Vous le savez, qu'est-ce qu'il va faire Adam ? Qu'est-ce qu'il fait dans le texte de Genèse 2 ?
Il laboure.
Non ? On lui demande de cultiver et garder, mais il laboure pas. Puisque...
Ouais. Il critique sa femme.
Ah, non, il ne critique pas sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire ?
Travailler à l'histoire de son front.
Après, mais avant. Avant de manger le fruit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nommer. Vous vous souvenez ? Il va nommer les créatures. Et elles deviendront des êtres vivants. Là encore, vous savez, vous voyez tout de suite cette dimension de la vivification que le travail de l'homme apporte. Quand bien même il n'est pas créateur à la place de Dieu. Hein. Dieu crée l'animal, l'homme d'homme. Qu'est-ce que c'est que nommer, sinon appeler à l'existence ? Mettre en relation les vivants ? Porter l'interrelation dans la création. Et ça, c'est une belle image du travail de l'homme. Cependant, une fois qu'il a nommé tous les êtres vivants et tous les... Eh bien, qu'est-ce que dit le texte ? Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas d'être qui lui serait complémentaire. L'homme reste un être de manque, profondément de manque. Et cela, c'est aussi une seconde limite à sa toute-puissance, mais c'est aussi une difficulté à vivre. La pénibilité, d'une certaine manière, elle est déjà là, avant même qu'il consomme le fruit. Il y a déjà cette espèce de manque qu'il habite et que Ève ne complétera pas complètement, quand bien même. Voilà, le sens du travail dans la Bible est donc toujours à relire. Toujours à relire dans une ambivalence entre la puissance réelle de l'homme et sa possibilité de modifier le créé réellement, hein, et de changer l'ordre de la nature, le modèle de la nature, on ne peut pas dire autrement, et ceci n'est pas maudit par Dieu, ceci est même porté par le texte de Genèse 1, et en même temps, le service. Mais dans cette triple sens du service, au risque qu'il devienne violence et brutalité. Alors maintenant, cela nous laisse devant la nécessité de discerner l'ambivalence du travail un peu plus. Et c'est ma troisième partie. Je ne sais pas quelle heure il est. 35, je suis à peu près dans les temps. Nous avons évoqué deux mots employés pour qualifier le travail, hein, donc cultiver et garder, mais dans un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le livre du Kohelet, dit l'Ecclésiaste, un troisième mot est employé. Le mot hamal. Travailler, se fatiguer, se donner de la peine. Coëlette n'emploie que ce mot. Et il l'emploie de nombreuses fois. C'est le travail labeur. C'est le travail qui pèse. C'est le travail effort, le travail qui coûte. C'est le travail dans son côté dur. Coëlette est un contestataire, comme Job. Il remet en cause les évidences faciles de ses contemporains et en particulier son travail. On pourrait tout à fait qualifier son texte de malaise post-travail. Alors, je ne peux pas lire tout le texte parce qu'il est long, mais je vous invite à le relire chez vous parce que c'est un bijou aussi de littérature, hein, où Coëlette va revenir tout au long du texte sur le thème du travail. Je vais en relater juste quelques accents. Que dit-il du travail? Premièrement, il dit le travail, après ce qu'on a dit de Genèse 1, le travail est sans valeur en lui-même. Ça peut paraître tout à fait contradictoire, et il faut assumer la contradiction. Je lis Coëlette 2 au verset 11. Je me suis tournée vers toutes les œuvres qu'avaient faites mes mains et vers le travail que j'avais eu tant de mal à faire. Il a précisé juste au-dessus qu'il en avait fait bon beaucoup. Eh bien, tout cela est vanité et poursuite de vent. On n'en a aucun profit sous le soleil. Vanité signifie buée, inconsistance. On pourrait dire inconsistance. Donc il a travaillé beaucoup, il a construit des maisons, il a fait plein de choses. Il faut savoir que Coëlette, dans le texte de Coëlette, le premier verset figure que c'est le roi Salomon. Alors j'imagine le roi Salomon a fait beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Donc il a beaucoup travaillé cet homme, et voici qu'il se retourne à la fin de sa vie, une fois qu'il a fini de travailler sur lui-même, il ouvre les mains pour voir ce qu'il a récolté, ce qu'il a bâti, et il s'aperçoit que tout lui a échappé, qu'il ne lui reste plus rien pour lui-même. Et un peu plus tard dans le texte, il dira, et même s'il restait quelque chose, ce sera pour d'autres. Parce que moi, quand j'aurai fini de travailler, d'autres qui n'ont pas travaillé à ce que j'ai fait reprendront ce que j'ai fait, et moi, pour moi, il ne reste plus qu'inconsistance. Le travail, il dira même qu'il ira jusqu'à détester son travail à cause de ça. Le travail n'a aucune valeur en lui-même pour Coëlette. Et on déduira le théologien Jacques Ellul, tout aussi contestataire que Coëlette dans son approche, il dira. Donc le travail n'est pas une justification pour vivre. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Et pourtant, à la façon dont Coëlette en parle, on comprend que le travail a pour lui une extrême importance. En fait, le travail a occupé une grande partie de la vie de Coëlette. Il s'y est beaucoup appliqué, il le dit à un moment. Voici un homme qui a fait son travail avec sagesse, avec science et succès. Et d'ailleurs, cette façon d'invoquer son implication est étonnamment moderne pour nous, hein, qui nous impliquons à fond dans notre travail, et à la fin, on se dit, mais quel est le sens de ce que je fais, hein? Et voilà que maintenant, après avoir évoqué dans notre deuxième partie une noblesse du travail, nous avons là un texte, aux accents différents, qui vient nous guérir de toute sacralisation du travail. En aucun cas, le travail ne permet d'obtenir, d'après Coëlette, un progrès de l'humanité, un supplément d'humanité. Celui qui a beaucoup travaillé n'en ressort in fine avec rien de plus que celui qui a peu travaillé. Et donc, il est impossible de thématiser un schéma de réussite dans le travail. C'est une forme de désacralisation du travail. Pas plus d'humanité, mais pas moins non plus. Certes, nous savons qu'au troisième chapitre de la Genèse, une fois que Adam et Ève auront consommé le fruit, ils vont être grondés par Dieu et voire même punis, et cette punition va s'assortir de la malédiction du sol, pas du travail, et une pénibilité qui va être attachée au travail. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu tireras ta nourriture à la sueur de ton front. Alors, le travail est effectivement tombé là, sous le sceau de la nécessité et de la contrainte. Il faut bien qu'on travaille. On est obligé de travailler, et certes, c'est pénible. Mais il faut écarter toute interprétation comme quoi le travail serait maudit. Même pas la pénibilité. Parce que si on reprend Genèse 3, on s'aperçoit qu'il y a deux condamnations, il y a deux punitions. Il y a la femme qui va accoucher dans la douleur et l'homme qui va devoir tirer sa nourriture à la sueur de son front. Deux pénibilités tout à fait parallèles, qui signifient que les relations de l'être humain à son entourage vont être détériorées. Mais cela ne veut pas dire que le travail est maudit, même la pénibilité, parce que finalement, si je prends l'exemple de la femme, engendrer n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Donc l'acte lui-même, par laquelle il va advenir de façon adjacente une pénibilité, reste une bénédiction. Mais dans des conditions qui vont être plus difficiles. Il faut donc comprendre que la pénibilité elle-même devient ambivalente. Coëlette se plaint fortement de cette pénibilité. Tous ces jours, en effet, je cite là, tous les jours de l'homme hein, ne sont en effet que douleur et son occupation n'est qu'affliction, même la nuit sans cœur et sans repos. Mais il ajoute, ceci aussi est vanité, même la pénibilité est vanité. Elle est aussi inconsistance. Il n'est donc pas inutile de lutter contre la pénibilité du travail pour essayer de la réduire tant qu'on peut, bien entendu. Mais la pénibilité ne change rien à la valeur du travail en réalité. De la même façon que la pénibilité de l'accouchement ne change rien à la valeur de l'accouchement. Ceci nous est utile pour, si l'on reprend aujourd'hui une étymologie qu'on entend très souvent dans les débats sur le travail, on entend l'étymologie du mot travail comme venant de trépanium. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Trépanium est un instrument de torture et beaucoup de chercheurs, même de très... J'entendais André Comte-Sponville par exemple, ou des gens quand même très tout à fait respectables hein, qui utilisent cette étymologie. Comme quoi, donc le travail venant d'un instrument de torture, naturellement, le travail est attaché à l'idée de souffrance. En réalité, cette étymologie est contestée par les linguistes depuis le 19e siècle. Et on peut se demander pourquoi notre société est tellement attachée à vouloir rattacher le travail à trépanium, alors qu'en réalité, on a tout lieu de douter de cette étymologie. Il y a comme une recherche de vouloir relier absolument le travail à la souffrance, alors que peut-être il s'agit d'autre chose. En 2008, il y a une étude d'un spécialiste de la littérature française au Moyen-Âge, une très grosse étude, hein, qui fait plus de 70 pages, qui s'appelle André Eskenazi, et qui me semble être l'étude la plus complète qu'on ait sur le sujet. Il va contester absolument que le travail soit, que le mot travail soit issu du mot trépanium. Tout simplement parce que je passe vite là-dessus, mais il y a une question de modification du terme trépanium ou tripanium ne peut pas être devenu tra. Tra. Tré en tra. Les linguistes ne peuvent pas l'expliquer. D'autant plus que ce tra de travail se retrouve dans beaucoup d'autres langues, comme trabajo en espagnol, mais aussi comme trabajar en espagnol, ou aussi en portugais, dans d'autres langues où on a aussi ce tra. Donc ce tra doit venir d'une autre racine. Et en fait, il montre qu'il vient de la racine traps, qui veut dire poutre, et qui a donné le mot entravé. Et donc, cette racine poutre va, alors à travers un long travail d'analyse, va lui permettre de montrer que l'étymologie du mot travail vient de l'idée d'engagement, de déplacement face à une rupture où sous l'effet d'une pression extérieure, on a à faire un effort pour déplacer quelque chose, pour changer la réalité. Donc l'idée de travail sous-tend l'idée d'engagement, de déplacement. L'idée d'effort est présente, voire de mal associé à l'effort, mais aucunement l'idée de torture. Et c'est ça qui est important. Le travail n'est pas... par nature, il n'y a pas de nature du travail qui soit associable à la torture. Et donc aussi à une domination qui soit une torture. Alors cette idée que le travail serait un effort et une adaptation face à une rupture ou une crise au risque d'engager une mise à mal, je la trouve très, très intéressante et très conforme à l'esprit du texte de Coëlette. Elle montre que la peine du travail elle-même est une notion ambivalente, à la fois positive, parce qu'il est bon que l'humain surmonte ses nécessités, sa nécessaire adaptation devant ses besoins, mais aussi négative, parce qu'il y a une double épreuve, dira l'auteur de l'étude, à la fois nous sommes inscrits dans des limites, et c'est la manière de le vivre, et aussi nous sommes obligés de fournir un effort qui peut aller jusqu'à la douleur. Et évidemment, la douleur est toujours négative. Vous voyez ? Mais ça reste un mal proportionné à l'obtention d'un bien. Je pourrais développer aussi, et je ne le ferai pas parce que sinon je vais m'étendre trop longtemps, que la productivité du travail est aussi tout aussi ambivalente. La Bible le dit de multiples manières, comme par exemple quand dans le Deutéronome elle va défendre que toute richesse est bénédiction de Dieu, donc positive. Et qu'en même temps, dans d'autres textes, comme par exemple Matthieu 6, ou ses parallèles, il est dit, mais ne te soucie pas de ce que tu vas manger, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, ils sont nourris, à plus forte raison, tu seras nourri. Donc il y a aussi un double discours, qui n'est pas en réalité un double discours, mais une ambivalence qui nécessite un discernement, qui nous oblige à reprendre quel est le sens de la production bonne. Alors ce sens va se trouver chez Coëlette dans une dimension du don. Et c'est là où j'arrive petit à petit à ma dernière partie. Car pour Coëlette, le travail reste à vivre. L'Ecclésiaste, donc le Coëlette, ne dit jamais que le travail est mauvais. Il engage même à travailler autant que possible. Je le cite en Coëlette 9, « Tout ce que ta main trouve capable de faire, fais-le par tes propres forces, car il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en iras. » Donc une fois que tu seras mort, ce sera trop tard pour travailler. Donc travaille dès maintenant, parce que là, il y a bilan, il y a un savoir, il y a une sagesse, hein, et tu peux faire quelque chose. Travailler, c'est alors choisir de vivre. Et j'ajouterai encore, à partir d'une autre citation, c'est croire en un avenir possible. Et partager. En Coëlette 11, il y a cette phrase qui est très belle. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. Donne une part à 7 ou même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc il y a une forme d'urgence. Il y a une forme d'urgence à produire, à s'engager pour pouvoir partager. Toujours cette idée de pouvoir donner la vie. Mais quand bien même il y a toujours ce mal attaché au travail, et ce mal attaché au travail, Coëlette le résume au verset, au chapitre 6, d'une façon tout à fait significative. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant l'appétit n'est pas comblé. Le ventre est comblé par le travail, mais l'âme ne l'est pas. L'homme reste un être de manque. Alors où est donc le bonheur ? Eh bien, le paradoxe, c'est justement que Coëlette va le trouver dans le travail. Et comment il va le trouver dans le travail ? Je le cite. Rien de bon pour l'homme, sinon de manger, rien de bon pour l'homme, sinon de manger ou de boire, de goûter le bonheur dans son travail. J'ai vu, moi, cela aussi vient de la main de Dieu. Recevoir son travail comme un don. Recevoir les fruits du travail comme un don. Voilà le bonheur. Et voilà ce qui donne sens au travail pour Coëlette, à travers toutes ses ambivalences. Le sens profond du travail se trouve donc dans la logique du don. Et la peine prend sens lorsqu'elle se comprend au regard du don qu'elle rend possible. La production prend sens quand elle se regarde au regard d'un horizon de vie qu'elle rend possible. Mais sans cet horizon, elle n'a aucun sens. Alors ça pose une dernière question que j'aborde encore ce soir, avant de vous laisser la parole. Quel horizon ? Peut-on encore le qualifier plus précisément l'horizon du don ? Et en quoi ça a quelque chose de concret avec le travail ? Est-ce que c'est une idée ah oui, je vis dans le temps, hein, comme ça, qui nous dépasse un peu, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit se vivre dans le travail et comment ? Ça va, vous venez encore le coup, je peux continuer ? Donc, je vais reprendre un exemple biblique pour essayer d'illustrer comment le don peut se vivre concrètement. Et je prends l'exemple d'une parabole que dit le Christ en Matthieu 20, au verset 1 à 13, une parabole que l'on nomme souvent l'ouvrier de la 11e heure. Alors peut-être voulez-vous que je vous la lise vite fait, si c'est peut-être pas en tête tout de suite. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint qu'il sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent, et sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore. Il trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit, mais pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers et pour finir par les premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Donc ce qui était convenu. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient... Ah non, c'est pas ce qui était convenu, pardon. Les derniers reçurent une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison. Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu d'une pièce d'argent avec moi? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou bien ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Alors on voit bien le problème de la parabole que soulève ce texte. Hein. Le salaire d'une heure de travail ne permet pas aux derniers ouvriers de nourrir leur famille ou eux-mêmes. Alors que faire? Au nom de la justice, faut-il les laisser mourir de faim? Nous savons bien, il y a une justice du contrat de travail. C'est une justice de l'équivalence des prestations. On l'appelle communément la justice commutative. Et c'est ce que rappellent les ouvriers contestataires. Mais on peut dire, oui, il y a une justice plus juste encore, qui s'adapte au cas par cas. Elle accède en fait à une vérité plus profonde, parce qu'elle prend en considération non pas seulement les prestations échangées, mais les personnes, leur situation, leurs limites, leur vulnérabilité. C'est la justice distributive, dont le souci n'est pas l'égalité, mais l'équité. Et à ce titre, on pourrait dire, eh ben, l'ouvrier qui n'a travaillé qu'une heure, il faut quand même qu'il ait de quoi manger. Alors après tout, on donne ce qu'il faut pour manger. Ça pourrait être une interprétation. C'est Aristote qui a défendu la distinction entre justice commutative et justice distributive. Et elle est très, très inscrite dans notre conception classique en matière de salaire. L'employeur est tenu à la justice commutative, donc donnée en fonction des heures de travail, et l'État, par des prestations complémentaires, peut en corriger les insuffisances par une justice distributive. Notre contrat social est basé sur cette responsabilité partagée entre deux acteurs différents. Alors, un premier niveau de contradiction du texte serait de dire que cette répartition des rôles est contestée par le Christ en disant « mais l'employeur doit être aussi soucieux de justice distributive ». Lui aussi. Alors une première conclusion serait, ben, le maître est bon, il a un modèle à suivre, donc un employeur, donc le maître de notre parabole, s'il est généreux et bon, eh bien ça veut dire que tous les employeurs devraient être généreux. Ce serait une interprétation très gentillette, un peu moralisante, mais à mon avis, elle bute sur un autre texte du Nouveau Testament, l'épisode du jeune homme riche, par exemple en Marc 10, dans laquelle c'est un jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui l'appelle « bon maître ». Et Jésus tout de suite le reprend et lui dit « pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. » Quelle drôle de phrase. Une phrase qui veut dire que la bonté de Jésus, alors à plus forte raison celle de l'humain, est toujours à mettre en question. Elle est à minima instable et peut-être douteuse. On ne voit pas comment une parabole comme celle-ci pourrait avoir pour simple message de dire aux gens « soyez bons ». Remarquez que le commandement d'amour, qui est le sommet éthique de l'Évangile, tu aimeras ton Dieu, certes, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même, n'en appelle pas à la bonté. Il en appelle à reconnaître le prochain comme un soi-même, comme un semblable, et comme un autre parmi cette semblabilité. Il y a là aussi cette ambivalence, hein, cette dialectique entre l'autre et le semblable dans le commandement d'amour. Il en appelle à cette dialectique-là, mais pas à la bonté. Donc autant dire que l'Évangile ne croit pas trop à la bonté de l'humain. Alors comment peut-on comprendre cette parabole ? Il faut peut-être se dire que le texte porte la question du don au-delà et de la bonté du maître, au-delà de la justice distributive et de la justice commutative. Et pour le voir, reprenons la question que le maître pose à l'ouvrier à la fin du texte. Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Quelle drôle de question. Ton œil est-il mauvais ? Ça c'est bizarre. Mauvais, le mot poneros, ton œil est-il mauvais ? C'est un mot qui vient de ponos, qui veut dire affligé, plein de peine, mais qui peut aussi vouloir dire méchant. Et c'est très étonnant parce que cette expression exacte, ton œil est mauvais, est reprise dans un autre passage de Matthieu, au chapitre 6, qui justement va poser la question de là où est ton trésor. Et je cite Matthieu 6. Où est ton trésor ? Là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, poneros, ce même mot, si ton œil est méchant, si ton œil est affligé, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelles ténèbres, dit le texte. Terrible. En substance, si l'ouvrier reste les yeux fixés sur l'horizon du contrat de travail, là serait son trésor. Il est comme un aveugle. Et tout son corps est plongé dans l'obscurité. Mais si son œil se fixe sur le trésor de bonté qui émane de cette situation, bonté révélée par l'action du maître, alors tout son corps sera dans la lumière. Et ça, on peut repenser à nos situations de travail avec cet exemple. Pourquoi travaillons-nous ? D'abord pour gagner notre vie. Mais c'est la claire démonstration qu'on ne peut pas seulement avoir ce regard porté sur nos seules conditions matérielles. Il faut chercher plus. Chercher la bonté de la situation. La question de l'employeur ouvre un horizon nouveau, supplémentaire, celui de la lumière, qui intègre la logique du contrat. Il faut que les contrats soient aussi respectés, parce que dans ce texte, les contrats sont quand même respectés, hein. Il donne plus que le contrat, mais il donne le contrat. Il intègre aussi une logique distributive, mais il dépasse toute cette logique. Et je vais l'appeler ici l'horizon d'accomplissement du travail. Comme s'il y avait une couche supplémentaire, un horizon du don, au-delà même d'une équité aristotélicienne. Cet horizon d'accomplissement, c'est un mot que je, une expression que j'emploie, que j'invente, enfin que je propose moi-même. Je la titre aussi du premier verset de la parabole que nous avons lu. Le royaume des cieux est comparable à. En fait, il est écrit le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux ? C'est le royaume de la lumière. Hein ? Mais en fait, cette notion de royaume des cieux n'est définie de façon précise en aucune façon dans le Nouveau Testament. Et pourtant, elle est partout présente. C'est exactement pour annoncer le royaume des cieux que Jésus est venu. Il le dit je ne sais pas combien de fois. Jésus vient pour annoncer l'advenue de ce royaume qui apparaît comme une promesse d'accomplissement de la vie. Une promesse d'accomplissement de la vie. Une vie en plénitude promise par les évangiles. Concrètement, un monde où il n'y aurait ni violence, ni infirmité, ni maladie, où chacun trouverait sa place. Jésus lui-même va dire, en citant les prophètes, « Voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent. Le royaume des cieux est en train de venir. » Cet horizon d'accomplissement d'un royaume des cieux qui vient est révélé dans cette histoire particulière par cette générosité de l'employeur. La parabole nous dit l'horizon de la promesse d'une vie en harmonie n'est pas une utopie abstraite qui serait réservée à un temps futur. Le don est à vivre dès aujourd'hui, dans nos situations de travail. Ça reste un horizon d'une vie en plénitude, parce qu'elle n'est pas donnée en plénitude immédiatement, mais cet horizon est efficace dès aujourd'hui. Donc l'horizon d'accomplissement du travail, qui est cette advenue de la vie pleine. Elle n'est pas synonyme de sens du travail. Le sens du travail dans la parabole, elle est pour les ouvriers de gagner leur vie. Elle est pour l'employeur, pour le maître de maison, elle est de cultiver le champ. Ça, c'est le sens du travail. Et dans une entreprise, c'est pareil. Chacun a son objectif concret, personnel. Il vient travailler, il donne son sens. C'est au-delà. L'horizon d'accomplissement, ce n'est pas non plus l'objectif commun qu'on peut se fixer. On peut avoir une notion du bien commun qu'on défend très fortement aujourd'hui, qui est une façon de prendre soin de la création. Définissons ensemble le bien commun qu'on peut poursuivre ensemble à travers le travail. Elle va au-delà. Elle témoigne d'une surabondance de la vie, d'un amour donné qui est toujours à recevoir dans n'importe quelle situation. Il se vit dans une attente persévérante que Paul appellera l'espérance. Et ça, cette espérance, c'est pas encore quelque chose qui est au-dessus des conditions de travail, elle est à vivre dans les Paul le dit en 1 Corinthiens 9, je peux citer un exemple. Qui combat jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne sans en manger le fruit? Qui fait paître un troupeau sans se nourrir du lait du troupeau? Je passe quelques versets. Oui, c'est à cause de nous que cela est écrit, car celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et celui qui foule le grain doit le faire dans l'espérance d'en avoir sa part. Donc cette dimension de l'espérance, d'une société fraternelle, d'une vie pleine, d'une société sobre, d'une société non violente, d'une société qui accomplit cette promesse de l'Évangile, c'est une dimension attenante au travail lui-même, dont nous sommes appelés à rendre compte, y compris dans le travail. Donc notre parabole invite à traduire cette espérance dans nos situations concrètes. Et je crois que c'est aussi un appel pour nous à révéler notre capacité à vivre cet amour de l'Évangile que nous pouvons partager dans n'importe quel. Alors cet amour, cet horizon d'accomplissement est pour moi une façon de dépasser justement, de surmonter les ambivalences. C'est-à-dire accepter que le travail soit ambivalent, discerner les ambivalences, mais retrouver le sens profond du travail en vivant cette économie du don et en la partageant avec les personnes qui travaillent avec nous. Jean Calvin avait... C'est un peu daté, hein, ça date d'il y a plus de 500 ans, mais enfin Jean Calvin avait une image que je trouve assez rigolote, c'est qu'il disait, voilà, il y a une responsabilité particulière de l'employeur de pouvoir louer Dieu avec les gens de sa maison. Donc cette idée que l'on travaille ensemble, mais que cette responsabilité propre, c'est qu'à un moment donné, on puisse rendre compte du don qui nous réunit. Je m'arrête là et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Et moi, en tout cas, ça m'a donné envie de relire des textes bibliques sans lunettes. Alors, ça va être difficile parce que sans lunettes, je ne vois rien. Alors, peut-être il y a des questions et c'est le moment de les poser.
Merci beaucoup d'abord. Alors, un peu de Coëlette et de Jacques Ellul dans Coëlette avec toutes les ambivalences qu'il décrit. Le travail n'a pas de sens, on va le travailler par lui-même. Puis à la fin, vous avez mentionné que les fruits du travail, c'est qu'on percevra comme un don. Il y a un chapitre, je crois que c'est le 5 de mémoire, mais je ne suis pas très sûr, où il développe sa pensée sur la question de la formation et qui est fortement en lien avec le travail, c'est-à-dire de forme pourquoi comme une parole de sagesse. Et à la fin, il y a même une très belle image, il dit « Si tu rencontres un sage, va chez lui et lui rendre visite jusqu'à user la margelle de sa maison. » C'est beau. Alors, avec Jacques Ellul, c'est... quelque chose qui serait peut-être, enfin pour moi, peut-être que vous pourriez le repréciser, la distance par rapport à son travail universitaire, et puis l'investissement associatif qui est le sien. Et qu'au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'à travers la dimension de son engagement associatif, ça lui permet de nouer, de tisser des liens peut-être un peu renouvelés avec ses étudiants. Alors mon expérience est un peu différente. C'est que les étudiants que j'avais, notamment en Master 2, qui faisaient un stage souvent de longue durée en France ou dans un pays du Sud, quand ils revenaient de travail réalisé en matière de développement dans ces espaces-là, ils arrivaient porteurs de quelque chose, que ce soit loin ou près, qui pour moi était fortement porteur de sens. C'est-à-dire mon travail universitaire était nourri et enrichi, et je vais même jusqu'à dire, évangéliser parce que m'apportait. Du coup, la distinction entre les deux, pour moi, n'est pas significative.
Oui, j'attendais le micro, mais en fait, je l'ai. crois que chacun, on le vit de façon propre. Hein, on peut... Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce caractère dialectique qu'il a toujours, hein, dans cette idée qu'il y a un enrichissement mutuel. Mais c'est, pour moi, c'est une forme de circulation du don, hein, l'enrichissement mutuel. Hein, c'est-à-dire que il peut enrichir, probablement il enrichit tout autant son action bénévole de ce qu'il vit aussi à l'université. Et c'est certainement une accession à une certaine forme d'ouverture de ce que peut nous apporter l'autre. C'est intéressant d'ailleurs que l'enrichissement porte sur la relation qu'il a avec ses étudiants, c'est-à-dire une dimension relationnelle, où il peut certainement recevoir la parole de ses étudiants comme des gens intéressants dont il ne voyait pas l'intérêt auparavant. On en revient toujours finalement à l'être humain quand même, hein, et à la manière dont il rend compte de la beauté de l'autre. Oui, je ne sais pas si je dois rajouter plus, hein, je n'ai pas plus à dire que ce qu'il dit lui-même, hein, mais cette fécondation mutuelle est intéressante.
Vous avez évoqué l'origine du mot travail, et aussi dans les campagnes, un travail c'est un dispositif pour entraver une vache, un cheval, pendant qu'on lui pose les fers. Ça, c'est donc ça a le joignement d'une boucle. Il y a aussi l'expression une femme au travail, c'est quand elle accouche aussi. C'est quand même c'est une autre dimension. Je l'ai revu aussi dans un petit bouquin qui s'appelle Les idées reçues sur le travail, sur les économistes, les sociologues, etc. Je vais le faire par exemple. Okay. Il y a aussi évoqué l'origine indo-européenne, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué, tra à travers et val en déplacement.
Oui, il y a plusieurs théories en effet. Alors là, je suis passé directement à celle de 2008 de ce monsieur Eskenazi. Mais effectivement, il y a aussi une recherche sur la racine indo-européenne, rb, qu'on retrouve dans Arbeit.
Merci déjà pour la richesse de votre conférence. Il faudra qu'on y revienne pour goûter et savourer toute la substantifique de moi. J'ai beaucoup aimé cette démarche de sublimation que vous évoquez, et notamment à partir de la parabole de l'enseignant. Mais je crois que le sens, justement, que vous y trouvez et que vous communiquez est donné par le maître. Et ça rejoint un livre qu'on a sur la table, là, que je suis en train de lire, parce qu'il parle beaucoup, hein, de Marielle Dumortier sur le travail du fou. Et j'en fais le parallélisme, parce que Marielle Dumortier, qui est médecin du travail, reprend toute la souffrance des travailleurs et remet en cause à chaque fois l'employeur. Donc je ne sais pas justement, qu'est-ce que vous pensez justement de ce sens du travail lié à la position de l'employeur ? Quel sens donne au travail qu'il distribue ?
Alors, il y a plusieurs réponses possibles, bien entendu. Hein. Déjà, dans une parabole, on peut avoir déjà une première compréhension qui est de dire l'invitation d'une parabole, c'est quand même à une suivance du Christ. Hein. Quand bien même le maître donne, hein, l'employeur il peut aussi se représenter comme étant éventuellement un possible maître dans cette situation. Que ferait-il ? Et donc, il y a déjà une mobilisation de sa possibilité lui-même de recevoir le don et de le faire circuler. Parce que le don est toujours reçu du maître. C'est ce que dit Colette aussi. Hein. Il dit, finalement, ce travail, le bonheur est toujours un don. Hein. Mais n'empêche que jette ton pain à la surface de l'eau, hein. C'est-à-dire fais-le circuler. Donc, c'est pas seulement l'employeur qui a cette responsabilité, mais l'employeur est quand même bien placé pour faire circuler le don. Et faire circuler le don, ça peut déjà, ne serait-ce que circuler par la parole, en laissant la possibilité que soient nommées les choses bonnes, et la manière de les nommer. J'imagine, alors je ne sais pas comment ce qu'a dit exactement la conférence sur le soin, mais j'ai trouvé très intéressant que dans votre interrogation sur le travail, vous ayez une conférence sur le soin. Parce que c'est justement un des enjeux majeurs, à mon avis, de la transformation du travail en général. Comment pouvons-nous transformer nos conditions de travail de façon à ce que nous nous soyons les uns les autres? Et la place de la parole dans l'œuvre, je ne sais pas s'ils en ont parlé spécialement, parce que je n'ai pas pu réécouter donc, cette conférence, mais la place de la parole dans le soin est essentielle. Pas seulement entre patients et soignants, mais aussi entre soignants. Pour pouvoir dire ce qui se joue, pour pouvoir voir la vie là où il y a la maladie aussi et la mort. Et donc, il n'y a pas seulement une responsabilité d'une personne, mais certainement l'employeur, il est dans un rôle de repenser le collectif, puisqu'il en a la responsabilité. Mais je pense qu'il y a quelque chose à partager, cet exemple de Paul qui dit à Philémon, nous sommes tous frères. Et c'est ça qui va finalement désamorcer la nomination. Eh bien, elle est peut-être utilisable aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que l'employeur est capable de penser l'ensemble des salariés de l'entreprise comme des frères? Et là, la nomination n'est plus possible. Et là, la parole, on ne peut pas couper la parole non plus à l'autre, hein, empêcher de parler. Et dans la fraternité, il y a toujours cette dimension de don. On reçoit l'autre, on reçoit ne serait-ce que la présence de l'autre. Donc ça peut être une réponse.
Sur ce que vous dites, me parle, et je pense que sans vouloir parler à la place de nos Margot et Guillaume qui nous ont animé la précédente séance, je crois que c'est ça. Moi-même, étant soignant, il faut aimer ce fils. Si on n'aime pas son patient, même, on ne le soigne pas. Et ce que disaient Margot et Guillaume, si tu veux arriver à aider, à soigner le patient, prends soin de lui, et prends soin également effectivement de tes collègues qui sont autour de lui. C'est un travail d'équipe. Donc ça s'applique exactement à ce que tu dis.
Oui, et ce qui... Je pense que notre société réfléchit beaucoup à la question du soin, heureusement, hein. mais je pense que ça peut vraiment nourrir toute relation de travail. Et pas seulement à l'hôpital, mais aussi à l'hôpital, bien sûr.
Pour aller au-delà de ce qu'on dit là, je pense que on ne peut pas oublier Galates. Il n'y a plus d'homme libre ni d'esclave parmi vous, entre vous. C'est-à-dire que la loi de l'Évangile va plus loin que la loi civile, que la loi de l'Empire romain. Et pour nous aussi aujourd'hui, dans la société, l'Évangile nous demande d'aller plus loin que les lois que nous pouvons instaurer.
Oui.
Et quand on est aujourd'hui, par exemple, devant une société libérale qui va très très loin dans l'appropriation des lois, des biens par quelques-uns sur la planète, et que nous approuvons ce système, et que on le cautionne sans rien dire, c'est quand même quelque chose de grave qui contredit quand même. Et puis, il y a une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que François, dans son encyclique, il nous parle de la règle d'or. Et cette règle d'or, elle va très loin. Elle rejoint ce que vous disiez sur le don. Travail, don, service. Et donc de bien par quelques-uns, vous ne profitez qu'à celui-là, n'a pas de raison d'être. Dans le... On est conçu, on est vu comme des gestionnaires d'un bien public, d'un service public, d'un bien commun qui doit profiter à tous et en particulier aux plus pauvres. Et puis, ça me fait penser à la parabole des talents. La parabole des talents, Jésus, il montre Dieu, le maître, il n'y en a qu'un pour lui. Jésus, Dieu, le maître, qui donne des talents à chacun. Et chacun doit rendre compte de ses talents. Ce n'est pas pour lui qu'il les donne. Il les donne comme un service à rendre. Et ça rejoint tout à fait ce que François dit dans la règle de l'or.
Et ça, la fraternité n'empêche pas qu'il y ait des responsabilités différenciées. Donc, ce n'est pas forcément un égalitarisme.
La gestion, ce n'est pas nécessairement la propriété. La gestion, c'est chacun son travail.
Oui, l'argument, vraiment, révolutionnaire.
Il y a une chose qui est fondamentale.
L'argument révolutionnaire qui est porté par la doctrine sociale.
Le travail a été déconstruit. Le travail, c'est autant penser quelque chose, un architecte, etc. Le travail, c'est un travail. Il est à une œuvre. Comme l'ouvrier est à cette même œuvre par ses mains. Comme celui qui l'a commandé, par son argent qu'il verse, il est aussi à la même œuvre. On n'a pas le droit de couper ça en trois. L'œuvre, elle est à tous les trois. Et c'est tous les trois qui doivent être associés, autant l'un que les autres, chacun selon ses moyens, à la même œuvre. Et ça, c'est fondamental. Je crois que c'est quand même une revendication majeure du monde ouvrier depuis quelques années. Retrouver ce sens du travail, de l'œuvre. Et moi je pense comme aujourd'hui le mot ouvrier, il est mal vu. Oh, c'est dégradant. Or le mot ouvrier, c'est l'ouvrage, c'est œuvrer, c'est un tout. Le médecin, il est autant un ouvrier que celui qui fait un poème, un texte musical, qu'un autre qui fait un livre, que l'enseignant qui forme des élèves. On est tous à œuvrer à un ouvrage, comme la dame qui fait un ouvrage en tricotant, etc. Et ça, on l'a cassé. Il y a les uns, ils ont rien à dire. Ils sont achetés. On achète ton travail pour faire ça. Si t'es pas constant, tu t'en vas. C'est grave ça. Ces jours-ci, j'étais avec des amis qui avaient travaillé avec moi. À eux, c'était leur père. Et le père, il était mort sur le chantier. Il était mort du haut de l'échafaudage. Il me disait, ben. Ça n'a pas gagné depuis que tu es parti. Depuis quelques années, en peu d'années, il y en a plus de 30-40 qui sont partis de l'entreprise. Non pas parce qu'on les a licenciés, mais parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et celui qui me le disait, il était le premier, lui, à être parti.
poser des questions, nourrir le débat lorsqu'on voit beaucoup de gens qui sont au chômage parce qu'ils ne trouvent pas, et moi ça m'est arrivé, qu'ils ne trouvent pas sur le marché quelque chose qui leur conviendrait, que ce soit en termes de compétences ou que ce soit en termes d'éthique. Personnellement, j'ai fait le choix à un moment donné de me dire je vais dans un endroit où je peux m'y retrouver d'un point de vue éthique. Et je fais une croix sur la reconnaissance de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc forcément, j'en paye le prix, mais en moi, je suis tranquille, en tout cas assez tranquille avec ma conscience. Mais ça n'est pas simple, et ça n'est pas forcément même bien vu par la société. Et je ne suis pas dans les métiers du soin, parce qu'il n'y a pas que les métiers du soin. Et j'insiste là-dessus. Donc, quelque part, comment, j'en reviens à la question du chômage, qui concerne beaucoup de personnes, et des personnes qui ont des talents, et des personnes qui voient une occupation de la vie autrement que travailler 8 heures par jour. Et ce ne sont pas forcément des gens fainéants, parce qu'ils font aussi d'autres choses à côté qui relèvent du don, comme vous disiez. Et vous parliez, on parle de l'ouvrier, de travail, on parle de l'employeur, et l'État, il sert qui dans l'affaire? Et c'est la question. L'État, pour le moment, dans notre pays, soutient des gens qui sont au chômage jusqu'à un certain point. Il est probable que ça s'aggrave. On est quand même mieux lotis que dans certains pays. Et je parle aussi en tant que femme. Et du coup, je me pose la question, comment envisager d'un point de vue éthique aussi cette part de l'État, sans tomber dans le paternalisme, c'est-à-dire une reconnaissance aussi de ce que peuvent faire des gens qui sont au chômage, mais qui ne vont pas passer toute leur journée à chercher du travail parce que ça prend le chou et ça peut aussi démolir, mais aussi faire quelque chose pour l'an prochain. Voilà, je ne sais pas quel est votre point de vue, ne serait-ce que par rapport à la parole.
Par rapport au chômage, alors, l'État a un rôle, effectivement, de justice distributive. Hein. La justice distributive, ce n'est que du don et du contre-don. C'est-à-dire, c'est certains qui donnent pour que d'autres puissent être soutenus à d'autres moments, pour lorsqu'ils ont des moments difficiles, dans l'idée qu'à d'autres moments, eh bien, ou sous d'autres formes, chacun contribue aussi au don. Et ça, il faut peut-être déjà le rappeler. Le don et le contre-don, c'est une circulation infinie du don et du contre-don dans une société. Ça veut dire que le chômeur qui reçoit une indemnité, il donne aussi quelque chose par ailleurs, il donne autre chose. Et il contribue aussi à la vie sociale. Ce qui est le plus terrible, je sais, alors moi dans mon esprit, ce n'était pas forcément la responsabilité de l'État, mais la responsabilité de la société tout entière de reconnaître la part sociale que joue la personne au chômage. Parmi mes étudiants cette année, j'ai un ancien inspecteur du travail qui a fait des études de théologie et il a fait une remarque à un moment qui m'a semblé tellement juste. Il m'a dit, mais vous savez, les personnes qui sont au chômage, on devrait les reconnaître comme des travailleurs. C'est inacceptable qu'on les considère comme des inactifs. Parce que rien que chercher du travail, c'est un travail. Et moi, j'ai trouvé ça très juste. Et je pense que c'est la manière dont on parle des gens. C'est aussi la façon dont on reconnaît ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Pas seulement parce qu'ils auraient d'autres activités, mais déjà parce qu'ils sont chômeurs et qu'être en recherche d'emploi, je préfère largement ce thème d'ailleurs que le chômage, hein, être en recherche d'emploi, c'est un véritable travail. Alors comment l'État pourrait reconnaître, je ne sais pas.
Une recherche d'emploi, en plus, elle est très solitaire. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une activité. La recherche d'emploi, c'est quelque chose de très solitaire. Et donc, est dans une situation difficile. Et c'est absolument pas valorisé. Enfin, peut-être un petit peu maintenant, parce qu'il y a des ateliers qui se font dans certaines de la Pôle emploi. Oui. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un peu double peine, quelque part. Et alors, bon, il y a des situations qui sont encore plus difficiles.
Je vous remercie vraiment pour la qualité de votre conférence ce soir. Je suis un peu troublé parce que, par rapport à ce que vous avez dit, c'est tellement riche et Il y a tellement d'éléments que ça ne sert de résumer. On parle de cette ambivalence pour arriver à ce temps de soi. Moi, je travaille encore, je suis dans l'activité, et je constate une chose, je rejoins un petit peu ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est vous parliez de l'employeur. Moi, je suis dans une société où je ne connais pas mon employeur. Je travaille avec des fonds de pension. Ce sont des entreprises qui achètent des entreprises, qui développent une activité, mais tous les 5-6 ans, on change d'employeur, d'actionnaire. Et si bien que les gens que nous avons devant nous, quand on est en CSE par exemple, nous avons des représentants, c'est-à-dire des salariés représentants, qui représentent l'actionnaire. Et ça change tout à fait la nature du travail, parce que ces gens-là sont là pour les résultats, les objectifs à atteindre, et je dirais que le travail a disparu. Le travail est devenu simplement un moyen de faire fructifier l'entreprise, mais il a perdu tout son sens. Et il n'y a pas d'espace et de lieu dans l'entreprise où on peut parler du sens du travail. Ça n'existe pas. Ou alors, entre nous, entre salariés, on peut parler. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, le turnover, comme on dit, dans des entreprises comme la nôtre, dans un secteur d'activité, je suis dans les services, atteint, par exemple, on est entre 18 et 20%. C'est-à-dire que tous les 5 ans, pratiquement, l'entreprise a renouvelé l'équivalent de l'ensemble du personnel. Il n'y a que très très peu de gens qui restent dans l'entreprise. Généralement, c'est les gens du top management. Mais tout ce qui est cadre, agent de maîtrise, ouvrier, employé, va chercher lieu ailleurs. Et donc, dans ce que vous venez de dire, il y a une grande dimension spirituelle. Mais aujourd'hui, dans une société où, justement, je dirais, qui est déchristianisée, le sens, la valeur de ce que vous avez exprimé ce soir, comment peut-on le traduire dans une entreprise? Parce qu'on ne va pas. Ça devient difficile. C'est en parler comme vous en avez parlé, avec ce sens-là, cette finalité, ce serait introduire, je dirais, le religieux dans le monde du travail. Et on sait aujourd'hui à quel point, justement, ces sujets sont sensibles et deviennent, je dirais, presque des sujets d'affrontement. Qu'en pensez-vous?
Alors, je crois, sur ce plan, aujourd'hui, c'est difficile d'introduire le religieux avec un discours chrétien, par exemple, du style « convertissez-vous à Jésus-Christ, soyez esclaves de Jésus-Christ », comme dit Paul, c'est un terme qu'on ne peut plus employer. Mais tout un chacun, nous recherchons la vie avec un grand V. Et je pense qu'il y a des mots qu'on peut utiliser qui vont peut-être pour nous avoir sens dans notre foi, et qui peuvent avoir un autre sens peut-être face à la foi d'autres personnes, mais qui peuvent nous unir. Il y a des paroles subversives. Et je pense que le Christ nous donne la force intérieure, sans qu'on soit obligé de jeter en pâture le mot du Christ n'importe où, pour poser des paroles qui disent l'essentiel. Quel est l'essentiel? Et l'essentiel, c'est la vie pour tous. Donc si je dis l'essentiel, c'est la vie pour tous, ça veut dire que je suis une force de contradiction. Ça ne veut pas dire que je suis tout puissant, bien entendu. On voit bien qu'on est dans la faiblesse. Et toutes ces positions que j'ai décrites, enfin que la Bible décrit et qu'on a repris ce soir, sont des positions où le travailleur est en position de faiblesse, en fait. Hein. Quand Paul dit « mais à profit de la condition d'esclave », l'esclave n'a pas plus de pouvoir qu'avant. Il a juste cet enracinement dans ce qui fait la vraie vie et qu'il peut partager avec les autres. Et ça, c'est la source. C'est tout. C'est peut-être très peu. Et peut-être que ça ne donne pas la force de révolutionner la situation. Mais au moins, d'être fermant de quelque chose. Il y a cette idée, d'ailleurs le texte se finit comme ça. La dernière phrase, après avoir dit à l'esclave, enfin à l'esclave reste dans la condition où tu es, que chacun frère demeure devant Dieu dans la condition où il se trouve. C'est-à-dire l'idée de demeurer devant Dieu. Cette idée, voilà, est-ce que je suis en paix avec ça? Est-ce que je suis en paix avec le fait que je demeure devant Dieu? Et ça veut dire que pour moi, le nom est premier, hein, si, voilà, parce qu'il y a devant lui, dans la relation avec lui, tout ça. Et donc ça peut me donner au moins un sens clair de mes priorités dans mon travail. Ça ne veut pas forcément dire que je vais convaincre des fonds de pension. On sait qu'il y a un libéralisme très fort qui est né de ces fonds de pension, qu'il y a un déséquilibre des salaires, qu'il y a des injustices extrêmement fortes du point de vue financier.
Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on assiste dans le monde du travail à l'arrivée des fonds de pension,
dans des entreprises qui sont de taille moyenne. Par exemple, ce n'est plus des sociétés comme on pouvait voir en CAC 40, mais des sociétés comme la mienne où je travaille, nous sommes 200 salariés, c'est des fonds de pension qui mènent la marque. Et je veux dire, ça devient, ce genre de perspective, je dirais, va s'étendre. Et donc, et là, il faut vraiment arriver, alors je ne sais pas par quel moyen, parce que c'est. Mais il faut vraiment qu'il y ait une révolution, je dirais, certains diraient, on dira, spirituelle, mais il faut absolument qu'il y ait un bouleversement, parce que sinon, je dirais, les choses, telles qu'elles sont engagées, vont à la catastrophe. Et j'ai entendu ce que disait la dame, effectivement, lorsqu'on est dans cette situation de ne plus pouvoir supporter le travail que l'on fait, parce qu'on n'a vraiment plus l'impression de faire un travail utile et bien fait, il ne reste plus qu'une solution, c'est de partir. Il y a aussi, je voudrais dire, il y a un côté aussi d'espérance, c'est qu'on tisse des liens, il y a dans l'entreprise, malgré tout, il y a quand même une dimension humaine, je veux dire, tout n'est pas négatif, mais c'est quand même de plus en plus difficile.
C'est-à-dire qu'il y a une pression sur les résultats qui est très forte. Et c'est difficile de résister.
Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre au travail. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de relire ces textes de la Bible et de les approfondir. Alors, mais notre quinzaine n'est pas terminée. Elle se poursuivra ici jeudi 30 novembre à 18h30 avec une table ronde sur le thème « Ils ont changé de travail ». Elle se terminera le 7 décembre au cinéma Le Parvis à 20h avec un film à 20 ans. Sera suivi d'un débat. Alors, je vous rappelle que l'ARPEX n'est financé que par votre libre participation ou par vos dons, comme vous voulez. Donc, à la sortie, les corbeilles sont à votre disposition. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.